des mots pour le dire. Dominique Demichel, médecin et psychanalyste, et Simon Martin. Contrairement à ce que l'on pourrait penser, la générosité, le don de soi, le sacrifice, valeurs magnifiées par les religions, ont aussi leur part d'ombre et leurs limites. Le bénévolat prend sa source dans la générosité, une générosité qui demande à être interrogée et comprise pour qu'elle soit bénéfique et bienveillante. Heureusement, même si les motivations du don sont parfois obscures, l'immense majorité des bénévoles se passent très bien d'une cure psychanalytique et continuent sereinement de donner de leur temps et de leurs compétences pour faire tourner un grand nombre d'associations. Le bénévolat, suite de notre série en compagnie du docteur Dominique Demichel. Dominique Demichel, bonjour.
Bonjour Simon.
Dans nos émissions précédentes, on a insisté sur les ombres du don. Même si les cas limites existent bel et bien, la plupart des bénévoles accompagnants que vous avez suivis, Dominique, avec l'association Jalmav, savaient très bien ce qu'ils faisaient et pourquoi ils le faisaient. Rassurez-nous.
Je pense qu'ils savaient très bien ce qu'ils faisaient. Dire pourquoi on fait quelque chose, c'est toujours compliqué à la psychologie de la motivation, par exemple, c'est un champ de la psychologie qui est tout à fait intéressant, qui est en général relativement complexe. Ce qui me semble être important, c'est de sortir un peu des illusions. Et dans votre introduction, vous parliez des ombres de la générosité. Je crois qu'en effet, ce qui est important, en tout cas, lorsqu'on va faire un acte bénévole, hein, puisque c'est le thème de nos échanges, là, c'est de savoir que derrière, il y a un arrière-plan. Et que derrière la générosité, il y a aussi des nécessités intérieures. Et je rappelle que ces nécessités intérieures, ce n'est pas du tout quelque chose qui est négatif. Hein. C'est juste peut-être la face cachée. Et peut-être d'ailleurs, parce que c'est la face cachée, une des motivations la plus profonde. On a vu combien auparavant, au fait, le fait de pouvoir avoir le désir de donner, d'accompagner, surtout dans des situations difficiles, je pense à tout le champ du social, à l'accompagnement des personnes en situation de deuil ou les personnes qui sont en fin de vie, requiert quelque chose de tout à fait spécifique. Comme vous le disiez, il n'y a pas besoin d'être allé voir le psychologue, le psychothérapeute, le psychanalyste ou autre chose comme ça pour, d'une part, se proposer comme bénévole et tout de même réfléchir sur le sens de cet engagement. Et il me semble que dans les situations comme ça où justement, j'allais dire, la dimension d'être, la dimension ontologique au fond de la rencontre est prédominante. Hein. C'est pas tout à fait la même chose que quand on joue au foot, même si au foot, il peut y avoir une valeur d'être tout à fait importante, bien évidemment. C'est, je crois, important pour les bénévoles de réfléchir. Donc, ils prennent leur temps, non pas pour tout comprendre, mais pour avoir cette pratique du questionnement qui fait qu'en permanence, ils vont continuer à s'interroger sur ce qu'ils ressentent, sur ce qui les motive, sur ce qui leur fait peur, sur ce qui les trouble, ce qui les attire, ce qui les fascine, histoire d'avoir un élargissement de leur champ de conscience, donc une plus grande liberté par rapport à leur engagement, être moins contraint par cette nécessité intérieure que nous avons évoquée antérieurement, et donc essayer d'être dans une relation plus juste avec ceux qui les accompagnent.
Oui. L'enjeu, c'est la liberté, la liberté de l'action. Docteur Dominique Demichel, on en a parlé dès nos premières émissions, des formations qui étaient nécessaires pour les bénévoles, quels qu'ils soient d'ailleurs, dans n'importe quelle association, et d'autant plus quand ils interviennent dans le milieu hospitalier comme à Jalmav. Pouvez-vous nous dire en quelques mots en quoi consistaient ces formations que vous faisiez avec les bénévoles que vous avez accompagnés? Et comment, justement, les avez-vous incités à s'interroger sur leur motivation?
Alors, la formation au sein de Jalmav, mais Jalmav Eure-et-Loir, mais c'est à peu près partout pareil dans toutes les associations. Hein. Il y a plus de 60 associations en France. Hein. Cette association repose sur deux éléments. une approche théorique qui est faite sous la forme, on pourrait dire, de cours ou de conférences par des gens qui sont spécialistes, donc qui vont parler du deuil, qui vont parler de la souffrance, qui vont parler de la douleur, qui vont parler de la fin de vie, qui vont parler de des questions philosophiques, des questions existentielles, de la place des religions, etc. Mais qui vont parler aussi beaucoup de ce que c'est que l'écoute sur le plan théorique, ce que c'est que la communication non verbale, vous voyez, des tas de choses comme ça.
Donc, sous forme de conférence
Voilà. Ce sont en général des gens du département, ici, que nous connaissons depuis longtemps, qui viennent.
Voilà. Des professionnels, donc
Des professionnels, exactement, des professionnels, psychologues, médecins, aides-soignantes, infirmières, etc. Voilà. Il peut y avoir une thématique, par exemple, sur la personne âgée, vous voyez, hein, donc c'est. Voilà. Cette approche est faite sous une forme théorique, mais aussi avec un échange avec les bénévoles et puis l'intervenant. Ça, cet élément est tout à fait important parce que, par exemple, comprendre ce que c'est que vraiment l'écoute, c'est quelque chose qui n'est pas obligatoirement inné. Il y a des gens qui savent très bien écouter, et puis il y a des gens qui vont parler tout le temps. Voilà. Et de temps en temps, ils vont parler tout le temps à l'autre en ancrant ça dans une authentique générosité. Ils sont parfaitement sincères. Voilà. Simplement, en général, écouter, ça ne va pas tout à fait avec le fait de parler. Voilà. On apprend, par exemple, dans l'écoute, que donner des conseils, en général, ce n'est pas très, très utile. Et ce n'est pas dans ce domaine-là, voyez. La majorité des gens, d'ailleurs, qui sont bien écoutés par quelqu'un d'autre, disent souvent « on a bien parlé ensemble ». Voyez. C'est-à-dire que la position active de celui qui est accompagné et qui prend la parole est corrélée avec une position active-passive, c'est-à-dire c'est une vraie position d'accueil, d'intériorité, voilà, mais qui se joue dans le silence. Mais c'est une forme de parole. Hein, c'est une forme de parole. En tout cas, il y a un échange.
Alors, par rapport à cette interrogation...
Ça, c'est la première partie.
Oui, hein, pardon, oui. Allez-y. Par rapport à cette interrogation qui est nécessaire de susciter chez le bénévole, comment ça se passe
ouais. Donc, ensuite, la deuxième partie, donc en effet, ce sont des groupes de parole. C'est-à-dire, d'accord. En fait, il y a là tous les bénévoles qui sont en formation, ceux qui arrivent ou ceux qui sont là déjà depuis plusieurs mois. Et en fait, on s'interroge. Donc, chacun raconte un petit peu pourquoi il est là, ce que ça lui rappelle. En gros, puisque nous, on est dans plutôt le champ du deuil et de la fin de vie, les expériences qu'il a eues là-dessus. Hein. J'imagine que quand on va participer à un tournoi de tennis ou de football, on va plutôt échanger sur des expériences là-dessus. Et probablement, ça fait du lien, ça fait du social, ça fait de l'aide, ça permet de grandir, ça permet d'exister aussi. Hein. Le foot, le tennis, comme probablement le bénévolat dans le champ social. Et à partir de là, au fond, chacun va venir confronter sa propre expérience à celle des autres et à la réception des autres. Ça, c'est très, très important. C'est quelque chose sur lequel j'ai toujours beaucoup insisté. C'est-à-dire, d'abord et avant tout, le groupe de parole, ce n'est pas un champ réflexif, ce n'est pas un champ de la pensée, c'est un champ de l'expérience. C'est-à-dire, on va apprendre, nous tous, ensemble, voilà, on est 6, 7, 8, en général, pas beaucoup plus. Et au fond, on va apprendre, en parlant, à s'écouter. On va apprendre à écouter l'autre. On va apprendre à respecter le petit temps de silence après la fin de sa parole. On va apprendre à ne pas lui couper la parole. On va apprendre à écouter au premier degré, au deuxième degré, parfois au troisième degré. On va apprendre à mémoriser pour pouvoir faire des liens. Et puis plein de choses, que ce soit la présence verbale, mais aussi la présence non verbale, il y a toutes ces choses-là. Vous voyez, par exemple, de temps en temps, on fait aussi des jeux de rôle, hein, c'est-à-dire, il y en a un qui va, par exemple, jouer le malade, l'autre qui va jouer le soignant, et un troisième qui va jouer le bénévole. Et alors, on donne une sorte de petit scénario, voilà. Monsieur Dupont vient d'apprendre qu'il a un cancer du poumon, on lui a dit ça la veille, et puis il est complètement désespéré, et le bénévole arrive. Il sait juste que le monsieur a un cancer, mais pas grand-chose. Et puis, il y a un échange. Et après, on va travailler sur le change. L'enjeu n'étant d'ailleurs pas nécessairement de dire « voilà ce qu'il aurait fallu faire, voilà ce que vous avez fait, voilà ce qui n'est pas bien, etc. »
Il n'y a pas de recette, j'imagine.
Voilà. Mais de comprendre, d'observer et de se dire « ah oui, oui, là, en effet, le monsieur a dit ça et puis je n'ai pas su l'écouter, je n'ai pas su l'entendre. » Alors que ce soit du côté de la présence silencieuse, que ce soit la reformulation, que ce soit accompagner l'autre dans son questionnement, vous voyez, toutes ces choses. mais c'est le fruit d'une expérience relationnelle.
J'imagine qu'il vous est arrivé d'avoir des suivis personnels, peut-être plus personnels, avec un autre bénévole.
Individuel ?
Oui, individuel.
Non, en général, non. Ce qui peut arriver, c'est que... Mais ça, c'est plus, j'allais dire, lorsque les bénévoles sont sur le terrain, de temps en temps, ils vivent des choses difficiles, hein, parce que c'est lourd, ou c'est objectivement lourd, ou peut-être plus fréquemment, c'est subjectivement lourd, parce que ça va leur rappeler une situation, ou ça va parfois les bouleverser dans un champ qu'ils ne comprennent pas, mais juste ils se sentent bouleversés, ils ont du mal à dormir, ils passent un ou deux jours en n'étant pas très très bien. Là, en général, il y a souvent un petit temps individuel, ou en effet à deux ou à trois, avec la responsable des bénévoles ou comme ça, voilà, on peut rediscuter pour retravailler très très ponctuellement ce qui s'est passé. Dans le cadre du groupe de parole, par contre, il arrive très très souvent que d'une rencontre à l'autre, on reprenne ce qui s'est passé. Ouais. La dernière fois, qu'est-ce qui s'est passé ? Voilà. Et puis, il y a des tas de choses qu'on vit aussi dans un groupe de parole. Par exemple, le silence. On est 8 autour d'une table, et puis l'animateur qui est là, il ne lance pas la discussion. Voilà. Et de temps en temps, il va y avoir une sorte de malaise. Mais qu'est-ce qu'on fait ? Pourquoi ? Mais alors, qui est-ce qui commence ? Qui est-ce qui parle ? Et au fond, ça se produit avec les patients. Parce que les patients, quand ils sont dans leur lit ou sur leur fauteuil, de temps en temps, ils se taisent. Il faut arriver à pouvoir se tenir auprès d'eux, par exemple, dans cette disposition et cette ouverture vraiment intérieure d'accueil, d'écoute, même si l'autre ne parle pas. Donc, vous voyez, dans toutes ces petites choses-là, on apprend à modestement essayer d'écouter un petit peu mieux qu'on ne le faisait initialement.
Oui. Avec ce que vous dites, docteur Dominique Desmichel, on aborde un aspect essentiel du bénévolat, me semble-t-il, c'est-à-dire que le bénévole va agir effectivement avec les personnes concernées, mais il est aussi membre d'une association, et c'est aussi important pour lui de partager son expérience, et aussi, pourquoi pas, de partager des moments plus festifs, plus conviviaux, avec des bénévoles comme lui. Ça fait partie du bénévolat, ça aussi.
Oui, je crois qu'on ne peut pas du tout envisager ce type d'accompagnement sans appartenir à une association. Hein. C'est-à-dire qu'il y a une dimension familiale, fraternelle, puisque le lien est essentiellement horizontal, même avec ceux qui sont censés en savoir un tout petit peu plus. Voilà, peut-être moi, sur le plan théorique, j'ai une certaine expérience pratique, mais dans la pratique... Moi, je n'ai jamais été bénévole, voilà, parce que j'étais le plus souvent soignant, ou j'étais comme médecin, même dans le cadre de soins palliatifs, ou j'étais psy, voilà. Mais c'est une écoute particulière, ça dans un contexte sûr, particulier, ouais. C'est pas la même chose. Donc, vous avez raison d'insister, on appartient à une certaine forme de fratrie ou de famille, peu importe comment on l'appelle, et puis chacun compte sur l'autre. Et d'ailleurs, ce partage d'être qui apporte toujours beaucoup aux bénévoles, se joue tout autant dans la relation avec la personne accompagnée qu'avec la relation horizontale entre les bénévoles. Ça, c'est tout à fait important.
Nous avons déjà longuement parlé du sacrifice dans nos émissions précédentes, un concept on ne peut plus religieux. Mais est-ce qu'on pourrait également évoquer la culpabilité qui nous pousserait à donner? Mais culpabilité de quoi, au fait ?
Alors, dans la psyché humaine, hein, il y a cette question du désir. Cette question du désir qui relève, on va dire, il y a plein d'approches, hein, c'est une vaste question, la question du désir, mais l'étymologie de désir, c'est desidera. Hein, c'est comme une sorte de ciel qui serait tout noir, dans lequel il n'y aurait plus d'étoiles, hein, plus rien pour éclairer. Donc, on va partir de ce désir qui est quelque chose de l'ordre de l'expérience du manque. Ce manque se situant ou du côté de la relation ou du côté de l'objet. Dans ce désir par rapport au manque, il y a toujours la possibilité de considérer ce qui nous manque comme un objet qu'il suffit de prendre pour l'avoir. Alors, quand il s'agit de ramasser un joli caillou au bord de la route et puis de l'emporter chez soi, ça pose évidemment pas de problème. Lorsqu'il s'agit de posséder quelqu'un d'autre, par exemple, évidemment, on est là dans quelque chose qui pose beaucoup de problèmes. Ce qui nous retient par rapport à ça, c'est le sentiment de culpabilité. C'est-à-dire, lorsque, à l'intérieur de nous-mêmes, on a eu un développement psychique normal, on est à l'intérieur de nous-mêmes dans une tension permanente entre ce qui est du côté du bon et ce qui est du côté du pas bon, du juste ou de l'injuste, du mal ou du bien. Cette tension-là nous anime, c'est-à-dire en permanence dans notre vie, on se dit qu'on a des choix à faire et que ces choix vont relever d'une hiérarchie de valeurs à l'intérieur de nous-mêmes. Cette dimension du conflit, c'est la bonne définition du névrosé, j'imagine, comme vous l'êtes et comme je le suis, c'est-à-dire où on passe notre temps et notre vie à se dire « qu'est-ce qui est important pour moi ? Est-ce que je désire prendre cet objet parce que j'en ai envie ou peut-être j'en ai besoin ?» C'est pas tout à fait la même chose, mais voilà. Mais même le besoin est toujours un tout petit peu étonnant et presque un peu suspect aussi. Ou est-ce que je vais entamer une relation dans laquelle je vais faire l'expérience de l'altérité, c'est-à-dire que l'autre, voilà, j'ai des sentiments pour lui, j'ai de l'amitié, j'ai de l'amour, j'ai de l'intérêt, je suis passionné par ce qu'il fait, par ce qu'il dit, par ce qu'il est, par ce qu'il vit, mais en même temps, il est radicalement différent. Donc, je rappelle très souvent qu'il y a bien évidemment une culpabilité qui n'a pas de réel objet, qui est de type imaginaire, qui est par exemple une culpabilité héritée, voyez, hein, hérité de manière concrète. On imagine par exemple tout ce qu'ont pu vivre les enfants des nazis, hein, qui bien évidemment n'avaient fait aucune faute, mais portaient une terrible culpabilité mondiale, j'allais dire, de ce qu'avaient fait leurs parents. Et là, ils avaient à s'en occuper.
Alors, vous voulez dire que dans le cas par exemple des enfants nazis, cette culpabilité sera un moteur pour qu'ils puissent donner et puis aider les autres, par exemple.
Ça, on ne le sait pas à l'avance. Ouais. Hein, c'est-à-dire, le j'allais dire, pour revenir un tout petit peu en arrière, la culpabilité, c'est d'abord et avant tout l'interdit du meurtre. Hein, c'est ça qu'il faut important. C'est-à-dire qui est important de retenir. C'est-à-dire, cette culpabilité nous empêche de tuer l'autre. Tuer l'autre, c'est-à-dire aller piquer un truc dans un magasin, voler le téléphone portable de quelqu'un qui l'a oublié sur la table, toutes ces petites choses. Hein, cette culpabilité, elle est intérieure. C'est-à-dire le gendarme. Ce n'est pas le gendarme extérieur. C'est-à-dire la police pourrait venir et dire « Monsieur ou Madame, c'est vous qui avez volé cet objet-là qui ne vous appartenait pas. » Mais c'est le gendarme intérieur. Hein. Voilà.
Donc, là, qui serait plutôt un frein. Qui nous empêcherait...
Voilà. Donc, il y a une dimension extrêmement positive de la culpabilité. Ça nous empêche de tuer l'autre. Ouais. Voilà, ça, c'est très important. Il y a une dimension extrêmement mortifère de la culpabilité qui est que, parce qu'on se sent en permanence coupable de tout ce que l'on peut faire, alors c'est un frein terrible. Hein, c'est une entrave. Hein. On voit beaucoup, en tout cas, ça dans les problématiques névrotiques graves, c'est-à-dire dans l'ombre d'une névrose juste. On voit des gens qui se sentent toujours coupables. Et parfois, ils se sentent coupables même d'exister, coupables d'être nés.
J'allais le dire, c'est la condition humaine, en tout cas par rapport vis-à-vis des religions, est basée sur cette culpabilité du péché originel. Qu'elle soit d'ailleurs religieuse ou pas, ça peut être pour les Grecs un âge d'or qui a disparu. En tout cas, si cet âge d'or a disparu, c'est qu'on est coupable de quelque chose parce qu'on n'y est pas, en tout cas. Donc ça fait partie de manière extrêmement profonde de notre condition, ça.
Oui. Alors, moi, personnellement, je ne pense pas du tout que cette culpabilité soit liée à la notion de péché. Pour moi, la culpabilité est liée à l'existence même de l'exercice de la liberté. Hein. On avait repris ça d'autres fois, c'est-à-dire... C'est parce que j'ai la possibilité de faire le bien et de faire le mal que mon acte a une certaine valeur. Et la culpabilité m'entraîne de faire le mal. Le mal étant toujours discutable, hein, même si c'est toujours beaucoup plus difficile, beaucoup plus facile ou moins difficile de définir le mal que le bien. Hein. Le bien, c'est très difficile de définir le bien. Mais en tout cas, par rapport à ça, cette culpabilité est positive. Alors, est-ce que la culpabilité peut être porteuse ? Elle peut être absolument délétère avec des gens qui sont l'héritier d'une culpabilité qui ne leur appartient pas. Par exemple, que leurs parents leur ont dit, en gros, sans leur dire, tout en leur disant « tu es arrivé à un moment où tu n'aurais pas dû arriver ». Voilà, donc c'est une espèce de projection d'être le mauvais objet. Donc on se sent coupable de quoi ? D'exister, même d'exister. Vous voyez, ça, en général, ça n'aide pas beaucoup à vivre.
Est-ce que ce genre de culpabilité, puisque on n'est pas responsable à la base, on ne peut rien faire pour la réparer. On peut pas réparer les fautes que l'on n'a pas commises.
Absolument. Ouais. On peut pas réparer ça.
C'est ça.
Sauf que ce sentiment de culpabilité nous empêche d'exister. Et c'est un sentiment de culpabilité. Ce n'est pas une culpabilité. Hein, c'est pas la même chose. Ouais. Donc, par rapport à ce sentiment de culpabilité, on va, dans le travail, par exemple, que je peux faire, moi, avec mes patients, on va travailler le sentiment d'exister. Et on va pouvoir développer la possibilité d'exister malgré ce sentiment d'exister. Et à ce moment-là, le fait d'exister pour de vrai va pouvoir contrebalancer, ou en tout cas, se mettre en balance par rapport au sentiment d'être né alors qu'on n'aurait pas dû naître. Hein.
Alors, par rapport à nos bénévoles, justement, à nos bénévoles accompagnants, que font-ils de cette culpabilité quand ils par rapport, premièrement, à leur motivation, et deuxièmement, par rapport à leur relation avec la personne concernée?
Globalement, puisque vous évoquiez ces ombres des sentiments de culpabilité, moi, ça fait peut-être 30 ans, là. Oui, on va fêter, je crois, les 30 ans de Jalmav cette année, là. Globalement, dans tous les bénévoles qui font la formation et qui l'amènent au bout, en général, ça dure un an, un petit peu plus, comme ça, j'ai jamais rencontré de gens qui avaient de problématiques graves. Voilà, on n'en voit pas. Ceux qui en ont, ils viennent pas, ils deviennent pas bénévoles à Jalmav. Donc, on retrouve des gens qui ont des raisons profondes, et je dirais, entre guillemets, souvent un petit peu louches de faire ça, parce qu'il y a quelque chose à réparer, parce qu'il y a un petit sentiment de culpabilité par-ci, par-là. Mais il n'y a jamais de gens avec des problématiques graves. Hein, voilà. Ce sont plus souvent des gens qui sont bien dans leur peau, qui sont bien dans leur vie, qui ont envie de faire ça de manière généreuse, qui savent très bien que c'est un petit peu bizarre, voilà, qui ont leur famille qui leur dit bah, « tu ne pourrais pas faire quelque chose d'un petit peu plus joyeux quand même que ça ». Mais non, ils le font. Donc, ils travaillent ça et au fond, ils découvrent en général, dans le cadre de la formation, qu'en effet, ils ont des raisons personnelles de faire ça, mais moi, je sais que personnellement, je leur dis, c'est parce que vous avez ces raisons louches que vous allez pouvoir le faire de manière juste, à condition d'en être conscient, c'est-à-dire pour ne pas projeter sur l'autre vos ombres, mais pour au contraire dire, j'ai des ombres, c'est pour ça que je le fais, et j'accepte de travailler ces ombres.
Et ça peut devenir, quelque part, une motivation quand ils en ont conscience, ce travail avec les personnes en fin de vie, pour justement se découvrir soi-même.
La rencontre, de manière plus globale, je dirais que tout...
On va en venir après, bien sûr, à la rencontre et à la relation. Hein.
Oui. Je dirais, là, en tout cas, le travail avec des gens qui sont en situation de deuil, c'est-à-dire dans une situation où l'être vit une faille, une fracture profonde, encore plus lorsqu'il s'agit de personnes qui sont en fin de vie, c'est toujours un moment d'une très, très grande densité. Et cette densité qui s'oppose, j'allais dire, à la légèreté, et il faut de la légèreté dans la vie, la densité de cette relation induit, dans la majorité des cas, une réflexion extrêmement profonde sur le sens de la vie. Voilà, hein, parce qu'on se dit, en effet, je vois l'autre qui va mourir ou qui a perdu quelqu'un de très proche et qui vit quelque chose de très difficile. On voit en ce moment, il y a le procès à propos de tous les attentats qu'il y a eu en France. On voit combien ça peut avoir blessé durablement des gens. Combien, parce que là, les enjeux de vie et de mort, parce que les enjeux de violence, parce que les enjeux de perversité, on pourrait dire, viennent bousculer une vie, les traces sont profondes et qu'on ne s'en remet pas si facilement. Donc, il me semble que par rapport à une rencontre qui, là, ne touche pas directement le bénévole, évidemment, hein, il n'accompagne pas quelqu'un de sa famille en tant que bénévole. S'il le fait dans sa famille, il le fait en tant que membre de la famille. C'est une autre position. On voit bien que ce travail-là ouvre, en tout cas, un champ de questions très large qui questionne en général toute l'existence. Ouais. On ne ressort pas indemne, au fond, de ce type d'expérience.
Ouais. Alors, quelqu'un frappe à Jalmav, bonjour, je voudrais être bénévole pour justement accompagner des personnes en fin de vie. Est-ce que vous, docteur Dominique Demichel, ou bien le responsable des bénévoles, va lui poser la question, pourquoi voulez-vous faire ça? Et quelle va être la réponse alors?
Oui, je pense que la question, elle est toute simple, comme ça. Voilà, vous avez envie de faire ça, bah, c'est quand même une drôle d'idée, quand même. Vous n'avez pas
voilà.
Pour y aller au cinéma, je ne sais pas trop quoi, apprendre l'aïkido ou le tricot, ou je ne sais pas trop quoi. Enfin, voilà. Et les gens, ils viennent et, en général, ils ont quand même réfléchi à leur question, parce qu'ils en ont parlé à leurs conjoints, dans leur famille. Les gens ont ouvert des grands yeux. Faire quoi, là? Qu'est-ce que tu me racontes, là? Tu te trompes pas. Voilà, donc ils sont saisis entre souvent un jugement extérieur un peu dubitatif, quand c'est pas franchement hostile, et puis une sorte de nécessité intérieure qui les pousse comme ça. L'enjeu, si vous voulez, ce qui est très important, ça n'est pas que le bénévole réponde à cette question. Pourquoi ai-je envie de faire ça? Je suis pas sûr qu'on puisse répondre à cette question.
Mais ils ont bien une réponse toute faite, même si elle est... non?
Pas nécessairement. Parfois, mais pas nécessairement. Okay. Non. Ce qui est important, c'est la pratique du questionnement. C'est je me pose la question. Et si ça me touche, et si ça me trouble, et si ça me bouleverse, qu'est-ce que ça vient faire? Qu'est-ce que ça me rappelle dans mes souvenirs? Voilà, hein, à la fois comme parfois quelque chose de très très juste, c'est-à-dire, voilà, j'ai rencontré là, ce matin la fille d'une dame qui est morte d'un cancer, et elle me racontait les histoires. Il y a 6 filles, et elles ont accompagné leur mère, et pour elles, l'accompagnement de leur mère qui est morte chez elle, accompagnée de ses 6 filles, là, voilà, est quelque chose qui est à la fois empli de chagrin, mais empli d'une espèce d'immense douceur, d'immense générosité, plein de chagrin et plein de tristesse, mais d'une expérience, vous voyez, absolument inoubliable pour elle. Voilà. Donc ça peut être, vous voyez, c'est pas toujours quelque chose qui est, ça a pu être extrêmement éprouvant, mais ça peut être porteur, j'allais dire presque, on pourrait dire de joie dans le sens de Spinoza qui dit que la joie est toujours associée à une progression d'être, hein, voilà. Donc ces gens-là, ils ont vécu quelque chose, puis ils se disent, ce qui s'est passé avec ma mère, ça a été positif. J'ai bien senti que j'étais sorti grandi de ça, au fond. Je suis sorti grandi. Et donc, ben voilà, ça fait 2-3 ans ou 5 ans, ou parfois 10 ans que j'y pense. Et puis, j'ai vu votre association, j'ai pris le temps, et puis je viens vous voir parce que, ben ouais, je vais peut-être faire ça, ou je suis à la retraite, ou je travaille qu'à mi-temps, ou mes enfants sont grands, j'ai du temps disponible, et j'ai du temps d'être disponible derrière.
Docteur Dominique Desmichel, eh bien, on va s'arrêter sur ces mots pour cette émission. Je vous donne rendez-vous le mois prochain.
Merci Simon, au revoir à tous.